pouvez commencer à chercher avec moi l'épître aux Romains. Nous avions terminé ensemble dans les méditations précédentes. Nous avions terminé les lettres aux sept églises de l'Apocalypse, les lettres de Jean aux sept églises de l'Apocalypse. Et comme nous sommes encore de façon générale dans la thématique de l'Église, j'ai à cœur aussi de considérer avec vous, de prendre le temps d'étudier, toujours dans le cadre de l'Église, sur ces mardis, les épîtres que Paul a écrites à des églises. Quand on considère les écrits de Paul, on s'aperçoit qu'il a écrit 13 épîtres. Sur les 13 épîtres, 4 sont destinés à des individus, Timothée 1 et 2, Tite, Philémon. Et il reste au moins, je dirais au moins 7 églises, parce que effectivement ça en fait 7, puisqu'il a écrit 2 fois aux Corinthiens, 2 fois aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul a écrit aussi à minimum 7 églises, mais peut-être plus. Est-ce qu'il est tout à fait probable que la lettre des Colossiens, la épître des Colossiens, soit parvenue aux Laodiciens, comme on l'avait vu ensemble? Et puis, les Galates, il faut savoir que la Galatie, c'est une région, une partie de l'Asie mineure actuelle, hein, c'est aussi la Turquie actuelle, pardon, l'Asie mineure, c'est aussi la Turquie actuelle, où il y avait plusieurs églises, comme Icône, Lystre, Derbe, des noms que l'on voit dans les Actes des Apôtres. Mais c'est sûr qu'il a écrit au moins 7 communautés. Cette fois, ce sont des épîtres, donc il y a beaucoup plus de points de doctrine fondamentale à considérer. Et j'ai à cœur d'étudier cela avec vous parce que ces épîtres, bien sûr, on ne pourra pas tout résumer en 2-3 messages sur chaque épître. Mais ce qui est important, c'est d'en tirer, de considérer ou de reconsidérer les grandes vérités bibliques que l'Église ne doit jamais perdre de vue, parce que ces vérités-là, c'est ce qu'on appelle de la doctrine systématique, c'est de la théologie, mais ces doctrines systématiques vont effectivement permettre à l'Église, encore une fois, de rester l'Église telle que Jésus la conçoit. Que ces Églises, en l'Église que nous sommes, chaque Église en considérant ces grandes vérités, puissent ne jamais perdre de vue ce que Jésus attend d'elle sur le plan doctrinal. On dit de ces épîtres, peut-être avez-vous déjà entendu ce nom à peine barbare, on dit souvent de ces épîtres, si j'avais mis la télécommande, ça va marcher.
Oui, ça marche.
Ah, par contre, je n'ai pas la main, frère, sinon ben, avancez par vous-même, ce n'est pas compliqué. On dit souvent de ces épîtres qu'elles sont christocentriques. Christocentriques parce qu'elles recentrent en réalité, elles recentrent constamment la pensée des croyants, elles redressent tout ce qui peut dévier en nous, dans les pensées, dans les raisonnements, elle recentre toujours tout sur la personne incontournable et suffisante de Jésus. Voilà. Elle recentre tout sur la personne et l'œuvre suffisante de Jésus. Elles ont leur utilité, leur nécessité, parce que dès le départ, dès le début de l'Église primitive, tout de suite on sait que l'Église a été attaquée, notamment par le biais de la persécution, acte 8.1, mais pas que. Puisque quand l'ennemi ne peut pas arrêter l'Église en passant par un côté, puisque la persécution non seulement n'a pas arrêté la propagation de l'Évangile, mais au contraire a répandu un feu de l'Évangile sur l'ensemble du bassin méditerranéen, le diable, lui, passe par un autre accès et il essaye de procéder différemment. Et on s'aperçoit que très vite, il y a eu toutes sortes de dérives dans les églises. Tout de suite après la constitution de l'Église, les épîtres, vous savez, sont rédigées dans les années qui suivent la Pentecôte, et on s'aperçoit qu'il y avait déjà des dérives naissantes. Ça ne doit pas nous faire peur ou nous inquiéter. Le Seigneur a tout mis dans sa parole. Nous restons veillants, vigilants. Nous restons accrochés à sa parole et à son esprit. Et en réalité, on s'aperçoit que des dérives doctrinales, il y en a toujours eu et il y en a encore. Et il y a tout ce qu'il faut dans ces épîtres pour nous permettre de garder le cap, parce que le Seigneur, en vérité, nous a tout donné. C'est ce qui a rendu, ce sont ces dérives, ces déviances dès le début, qui ont rendu ces épîtres nécessaires, et c'est leur raison d'être encore aujourd'hui. Parce que la parole, vous le savez, est toujours attaquée. Elle ramène donc toujours l'Église à l'essentiel. Elle ramène toujours le cœur de l'épouse à son époux. Et nous allons voir au travers des différentes épîtres, peut-être qu'on passera 2-3 soirs sur les Romains, peut-être 2-3 matins sur les Colossiens, mais on va voir ensemble des fondements que l'Église ne doit jamais oublier, elle ne doit jamais perdre vue, pour ne jamais être séparée de son époux. Je sais que le terme que je viens de prononcer est fort, mais quand vous faites bien attention, on le verra aux Galates, ce sont des gens qui, dans les premières heures du christianisme, tout de suite ont commencé à se dire que, c'est un exemple que je donne, il y en aurait d'autres, que le message de la grâce, c'était quand même un petit peu facile. Et qu'on devrait peut-être faire bon ménage entre la grâce et la loi. Et l'apôtre Paul leur écrit, mais vous êtes complètement insensés aux Galates. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous allez finir par la chair. Vous ignorez qu'il n'y a qu'un seul évangile, même si moi, Paul, je vous annonce un autre évangile, mais maudissez-moi plutôt que d'écouter un autre évangile, même si c'était moi qui vous l'annonçais. Et en réalité, parce que vous cherchez une justification dans la loi, parce que vous avez perdu la valeur de la grâce, vous êtes déchu de la grâce, mais vous êtes séparé de Christ. Et on va voir que beaucoup de points dans ces, beaucoup de points de doctrine fondamentale dans ces épîtres, en réalité, maintiennent la communion de l'épouse avec son époux et assure la pérennité et la solidité de nos vies spirituelles et de l'Église. Je vous ai mis ça, c'est ce qu'on étudiera en majorité, hein, les grandes vérités que l'Église ne doit jamais oublier. On sait aussi, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais je vous l'ai mis en plus, ce ne sont pas seulement des épîtres christocentriques, ce sont des épîtres aussi qu'on appelle de circonstances, c'est-à-dire qu'elles vont apporter, on n'oublie pas que ces églises sont dans leur genèse et que ces épîtres apportent des réponses pratiques aux questions, aux difficultés que les disciples commençaient déjà à rencontrer dans la pratique de la vie nouvelle. Mais c'est surtout sur la théologie fondamentale que je vais travailler avec vous sur les mardis qui viennent. Donc il y aura beaucoup de doctrines systématiques, mais il y aura toujours des PowerPoint et tout sera au plus clair. Tout sera aussi dans l'ordinateur à votre disposition. Et puis on n'oubliera pas, avant d'ouvrir vraiment le livre aux Romains, ce que Paul dit justement dans Romains 15, c'est que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Et on va voir dans l'ensemble de ces épîtres ce qui nous instruit aujourd'hui. Je commence avec l'épître aux Romains et je vous invite à l'ouvrir avec moi au chapitre 1er. Alors on ne lira pas tout, on va partir de la lecture systématique, mais bien comme je vous l'ai dit, que ce ne soit pas forcément simple de résumer une épître sur 2-3 messages. Il y a tellement de belles choses qui sont abordées. On va quand même s'apercevoir très facilement qu'il y a des fils conducteurs. Il y a des pensées maîtresses, des grandes lignes qui sont évidentes et qui se dégagent très facilement à la lecture et à l'étude de ces épîtres. Alors, on va visiter ces églises ensemble et on va en tirer des enseignements. On commence par les Romains. Merci beaucoup. Dans l'Épître aux Romains, il y a des choses qui sont très fortes, notamment la justification par la foi, le salut par grâce. Ce soir, on va parler de l'Église qui a cette grâce d'être justifiée par la foi, l'Église justifiée. On parlera aussi de l'Église consacrée, parce que ce sont aussi des points importants de l'Épître aux Romains. On parlera aussi de cette tension entre la grâce et la loi. Au chapitre 1er, on va juste prendre les versets 16 et 17 pour commencer. Vous pourrez garder vos Bibles ouvertes parce qu'on va lire des points de passage obligés, des points très forts au fur et à mesure. Dans les premiers versets, Paul adresse ses salutations et puis ensuite, il ouvre tout de suite sur ce thème majeur. Il attaque directement sur ce thème majeur, ce thème fondamental pour n'importe quelle vie de disciple, pour voir des âmes naître de nouveau, pour la bonne tenue, la bonne marche, la continuité des églises. Verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec. Parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et ici, l'apôtre Paul reprend une parole du prophète Habacuc 2, le juste vivra par la foi. Certains, peut-être dans vos traductions, vous avez le juste vivra de sa foi, il vivra par sa foi, parce que ici, Paul insiste par la foi et pour la foi. Par la foi, il insiste parce que c'est ce qu'on va voir, nous ne pouvons pas être justifiés. Il n'y a pas de salut en dehors de la justification par la foi, par la grâce. Justifié uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus, mais aussi pour la foi. Parce que c'est l'objectif, pas seulement de nous sauver par la foi, mais ensuite de nous faire vivre par le moyen de la foi. Le juste vivra par la foi, il vivra par sa foi. On peut même dire il vivra de sa foi, parce que le but n'est pas seulement de sauver, mais de nous faire entrer dans une façon de vivre. La foi, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. C'est notre moyen, de subsistance. C'est comme ça, là, personne ne peut vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, qui a choisi de revenir à lui par le moyen de la foi. Avec Dieu, tout est grâce. Depuis le salut, peu importe ce que je vais obtenir dans sa grâce, jusqu'à la fin de mon pèlerinage terrestre, tout est grâce et tout se fait toujours par le moyen de la foi. La foi est une façon de vivre, c'est un mode de vie. Cette justice dont Paul va beaucoup parler, notamment dans les quatre premiers chapitres, la justice, le juste, être justifié, je vous ai mis ici le sens dikaiosune en grec. La justice, ce n'est pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous donnez un certain temps, vous accordez un certain temps à votre enfant, vous accordez autant de temps à l'autre enfant, parce qu'il faut être juste, il faut leur donner la même chose. Et puis si vous donnez, vous faites un cadeau qui vaut 5 euros à l'un, vous essayez d'être juste et de faire un cadeau qui vaut à peu près pareil à l'autre, puis on dit « ah, sinon c'est pas juste ». Non, non, mais c'est pas de cette justice-là dont il est question. La justice, dans la pensée de Paul, ici, dans la pensée biblique, même de générale de la Bible, c'est d'être approuvé de Dieu. C'est un état. La justice, c'est un état. Je suis dans un état qui est approuvé de Dieu, un état spirituel, une condition spirituelle qui est acceptée de Dieu. Et on en a plusieurs images dans la Bible. On sait notamment que Adam et Ève, après avoir péché, Dieu les a recouverts d'habits de peau. Lorsque vous êtes, par exemple, dans le prophète Zacharie, vous voyez Josué, le souverain sacrificateur. Rien à voir avec Josué du livre de Josué. Dans le prophète Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur, est là. Il est devant le trône de Dieu. Il est en haillons. Et Satan est là en permanence pour l'accuser. Mais le Seigneur va le revêtir. Lorsque le fils prodigue rentre à la maison, il a mangé les carouches des pourceaux, excusez-moi, mais c'est ça réellement, il sent le cochon, il sent le porc, c'est l'image de la misère, de la vie abjecte sans Dieu. Et quand il arrive et que le Père le prend dans ses bras, la première chose que dit le Père, mettez-lui la plus belle robe. Donc cette justice, c'est une histoire de revêtement pour que nous soyons acceptés, agréés de Dieu. État approuvé par Dieu, condition acceptable aux yeux de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Paul est clair, il va montrer que personne, ça c'est pas évident à comprendre pour tout le monde, que personne n'est accepté de Dieu, personne n'est approuvé de Dieu. Même pas ceux qui cherchent, et c'est pour ça, si vous avez déjà lu l'Épître aux Romains, ou si vous l'avez lu régulièrement, vous avez vu qu'il y a cette espèce de tension entre Paul et puis les Juifs, parce qu'il parle beaucoup aux Juifs, il est fortement probable que l'Église de Rome, je fais une parenthèse sur le contexte, très probable que cette Église soit constituée de chrétiens qui appartenaient au judaïsme et qui se sont convertis, mais qui sont encore attirés par les rites, les pratiques du judaïsme. Personne n'est approuvé par Dieu, même pas ceux qui cherchent à observer la loi, même pas ceux qui pratiquent la circoncision, tout ça à cause de notre nature. J'ai repris la main, merci beaucoup. Tout ça à cause de notre nature de pécheur. Paul insiste beaucoup dans les chapitres 1 et 2 sur notre nature de pécheur, sur notre condition, l'état de péché et donc l'état de condamnation de n'importe quel être humain. Vous vous êtes peut-être déjà, il n'y a que le Saint-Esprit qui amène ce genre de conviction, vous vous êtes déjà peut-être heurté à des gens en parlant, en discutant, en témoignant, en parlant avec eux, leur faire comprendre qu'ils ont besoin de Jésus. Le problème, c'est que ces gens-là, ils vous disent, mais moi, monsieur, moi, j'ai tué personne. Le discours type, pourquoi vous souriez? Mais moi, je ne suis pas un voleur. Mais moi, je ne suis pas ceci. Mais moi, je ne suis pas cela. Paul insiste sur le fait que nous sommes pécheurs par nature. Un pécheur, c'est notre nature. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce que nous aurions commis une certaine quantité, plus ou moins de péchés, plus ou moins graves de péchés. Non, c'est parce que nous sommes pécheurs par nature. Comme un pommier à la base est un pommier, un poirier, un cerisier, un cerisier. Et parce que nous sommes pécheurs, nous allons commettre des péchés. Vous avez peut-être des arbres fruitiers dans votre jardin, peut-être des oliviers, ou je ne sais ce que vous voulez. Votre arbre, si c'est un pied, il va vous donner des pommes. C'est d'une logique implacable. Selon les années, il va vous faire 500 grammes de pommes, parce que ce n'est pas une bonne année. L'année suivante, c'est une super année, il va vous en faire 50 kilos. Mais qu'il ait fait 500 grammes ou 500 kilos, ce sont des pommes, on est d'accord? Donc le péché, c'est une histoire de nature, et parce que nous sommes dans cette nature, nous allons ensuite commettre des péchés, plus ou moins, ce que ensuite les hommes estimeront être plus ou moins grave. Mais Paul, lui, par ses révélations qu'il reçoit de l'Esprit et à la lumière aussi de l'enseignement biblique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un docteur de la loi, Paul insiste sur l'état de péché et la condamnation de l'humanité tout entière. C'est la vocation du chapitre 1 et 2 des Romains, d'amener tous et toutes à comprendre leur condition de pécheur, leur état de perdition et surtout l'incapacité de l'être humain à plaire à Dieu, à être approuvé de Dieu, à être accepté de Dieu, son incapacité à se sauver lui-même. Ensuite, il va concentrer, là je vous mets juste un petit résumé, comme ça si vous relisez, vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, la lumière des ignorants, le savant, le grec, etc. Dans ce chapitre 2, l'apôtre Paul concentre essentiellement son argumentation sur les Juifs pour que leur faire comprendre que ni leur héritage, c'est ça que ça veut dire le chapitre 2, ni leur héritage, ni leur connaissance, ni la loi de Dieu, ni les rituels ne les protégeront du jugement. La circoncision, dit-il, c'est un exemple que je vous mets ici, c'est celle du cœur. Parce que en réalité, tout ça, dans le peuple juif, héritage, connaissance, loi de Dieu, rituel, etc., tout ça, en réalité, c'est une source d'orgueil pour eux. C'est une source de complaisance. Et l'apôtre Paul est en train de leur montrer qu'il se voit comme la lumière, il se voit comme le guide des païens aveugles, ignorants, et il me montre clairement la réalité de leur vie, c'est qu'elle est en contradiction et en décalage total avec la signification spirituelle des rites qu'ils pratiquent. Et c'est pour ça que, juifs comme grecs, les grecs désignent, quand vous lisez ça, les grecs désignent l'ensemble des païens, c'est un terme générique. Les juifs pour désigner le peuple de la première alliance, les grecs pour désigner l'ensemble des païens. Paul démontre clairement que l'homme est incapable de se sauver en observant des rites religieux, en pratiquant quoi que ce soit, même si c'est du judaïsme, même si c'est la loi de Dieu. Tout ça, c'était la première alliance. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Paul démontre que la loi aussi est incapable de sauver. Ça aussi, c'est un thème fort, mais j'en parle pas ce soir, j'en parlerai un peu plus tard, mardi prochain ou dans 2 semaines, je ne sais pas. On verra aussi, ça c'est quelque chose qui pose aussi souvent pas mal de problèmes à pas mal de chrétiens, cette apparente tension qui existe entre la loi et la grâce. Est-ce que la grâce, finalement, ce n'est pas un message trop facile? Ce n'est pas un peu laxiste? Est-ce que ce n'est pas un encouragement à pécher, la loi, la grâce? Vous vous rendez compte? Vous avez péché, vous venez. Vous n'avez même pas emmené un agneau, vous ne sacrifiez rien, vous n'êtes même pas circoncis, mes frères, vous n'avez rien fait, vous arrivez, vous fermez les yeux, vous prétendez être sincère, vous dites pardon à Jésus, il y a un texte de la Bible qui vous dit vous avez péché, vous avez demandé pardon, il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous purifiez toute iniquité, point à la ligne, verset suivant. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à comprendre, et les premiers disciples avaient du mal à comprendre. C'est alors du coup, la loi devient quoi? Mais c'est devenu super facile. Nous, c'était hyper compliqué. On avait des rituels, on avait des traditions, on était obligé d'observer. Il y avait ci, il y avait ça. C'était un péril d'une complexité pour arriver à un Dieu qui était réellement inaccessible. Et puis eux, maintenant, vous êtes arrivés parce que Jésus est mort et ressuscité. Vous nous dites tout ça, c'est terminé. Vous n'avez qu'à fermer vos yeux, à être sincère. Et puis en réalité, tout est réglé pour vous. Vous êtes enfant de Dieu et il vous pardonne tout. Vous demandez quoi que ce soit. Et pour les premiers disciples, Ça n'a pas été simple du tout. Et pour les chrétiens que nous sommes, ben, des fois, ouais, l'apprentissage de la grâce, ben, ce n'est pas si simple. Et ça mérite vraiment d'être étudié, approfondi. Et on verra cette tension entre la loi et la grâce. Paul explique clairement, c'est très typique des Romains surtout, le rôle, la vocation de la loi, ses limites, etc. Et l'équilibre parfait que nous pouvons, puisqu'évidemment, on le sait, la grâce n'est pas permissive. Mais le secours n'est pas non plus dans la loi. Et on verra tout ça ensemble. C'est super important ce que je dis là, bien-aimés, parce que combien de bien-aimés, combien de frères et sœurs, malheureusement, dans leur marche avec le Seigneur, ne trouvent pas de véritable victoire sur le péché. Je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup de compassion et sans aucune forme de reproche ou de jugement. Combien de frères et sœurs se traînent les mêmes péchés, les mêmes luttes, les mêmes luttes, les mêmes échecs régulièrement, avec les mêmes tentations, les mêmes traits de caractère, les mêmes soucis, les mêmes cela, etc. Et puis, essayent de se canaliser, essayent de se discipliner, essayent de montrer, essayent de prouver, ils se mettent des règles, essayent de... Et ça marche jamais parce qu'on finit toujours par retomber. Et un jour, on crie comme Paul, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort parce que je fais, ça fait 20 ans que je suis chrétien, j'ai encore des chutes et je fais encore des choses que je réprouve. Mais, et là, les chrétiens se trompent par des faux raisonnements en disant, c'est plus fort que moi. Et tout ça, on le verra ensemble. Ça va, j'ai votre attention.
Oui.
Paul insiste, il faut commencer par là, sur l'universalité du péché. Vos Bibles sont toujours ouvertes, merci beaucoup. On va un petit peu plus loin. Universalité du péché, incapacité à plaire à Dieu, à se sauver lui-même. On lit Romains chapitre 3. Et on va regarder les versets 9 à 12, qui est un passage aussi incontournable. Nous avons déjà prouvé, verset 9, Romains 3, 9, nous avons déjà prouvé, c'était le but de ces deux premiers chapitres, que tous juifs et grecs, c'est-à-dire l'ensemble des païens, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Ce sont simplement les versets 9 à 12. Tous sous l'empire du péché. Pas un seul juste, pas même un seul, tous égarés, tous pervertis. On va aussi un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 3. On descend au verset 22. Même le verset 21, pour que la phrase soit complète. Même le verset 20, pour anticiper sur ce que je dirai bientôt. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, il manifestait la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et oui, parce que, évidemment, Christ était déjà largement sous les symboles et les signes de l'Ancien Testament. Christ était déjà omniprésent dans la première alliance. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat, qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, on en parle dans quelques instants, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. L'apôtre Paul est en train de dire ici très simplement, puisque de toute façon, Dieu savait pertinemment de toute éternité, avant même la chute, avant même que le monde soit, puisqu'il savait que Jésus, agneau immolé, avant la fondation du monde, allait accomplir l'œuvre, tous les péchés de l'Ancien Testament étaient juste couverts par le sang animal, pas effacés, couverts simplement en l'attente du sacrifice ultime du Jésus. C'est pour ça qu'il est dit que c'était les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, on est dans l'ère de l'Église, on est dans l'ère de la grâce, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier ? Exclu. Par quelle loi ? La loi des œuvres ? Non. mais par la loi de la foi. Car nous savons, nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Bien sûr, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Est-ce que nous allons anéantir la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi, mais ça encore, on en reparlera plus tard. Ici, l'apôtre Paul est clair, Dieu n'a rien à faire de notre arrière-plan religieux, de nos rites, de nos habitudes, des bonnes promesses que nous faisons au Seigneur, de notre morale, fût-elle évangélique, pardon, de nos œuvres. La réalité, c'est que tous sont péchés, tous sont coupables. Dieu ne fait pas de distinction, il n'y a pas de classification dans les péchés. Personne n'est agréable à Dieu, personne n'est juste, personne n'est approuvé, personne n'est accepté. Et Paul insiste fortement pour établir ce contraste que ressortent de plus en plus évidemment, de façon de plus en plus évidente, le fait que le seul juste, justement, c'est Jésus. Lui qui offre le salut gratuitement, absolument, il faut absolument passer par lui et par lui seulement. Par la repentance, par la foi, pour être sauvé et agréable à Dieu, puisque c'est lui la victime propitiatoire. J'ai dû vous mettre ça aussi. Faut que j'avance. Propitiatoire, ce qui rend propice, ce qui va amener l'apaisement, la satisfaction. Et dans ce simple terme, l'apôtre Paul est en train de dire la seule chose, pardon Seigneur, c'est bien plus qu'une chose, une façon de parler, la seule chose qui puisse assouvir la colère de Dieu, c'est un pécheur qui se repent et qui place foi dans le sacrifice de Jésus. Il le reconnaît comme pleinement suffisant. La seule chose qui peut assouvir la juste colère de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le seul juste et c'est son sacrifice qui apaise et qui rend propice. Et puis Paul étant un éminent théologien, s'il utilise le terme propitiatoire, c'est pas pour rien. Vous pourrez revérifier dans Exode 25, Lévitique chapitre 16, etc. Il y a plusieurs références. Dans l'hébreu, ça nous ramène, c'était quoi le propitiatoire? C'est simple. Le propitiatoire, c'était le couvercle. C'était ce qui recouvrait l'arche de l'Alliance. C'était le couvercle. Et c'est là que le souverain sacrificateur, si vous avez déjà lu ça, le souverain sacrificateur aspergeait, il répandait le sang devant, mais aussi sur le propitiatoire, sur le couvercle de l'arche. Et derrière, dans tout ça, il y avait une symbolique très forte, parce qu'il y avait la loi de Dieu qui était à l'intérieur de l'arche, il y avait la nuée, symbole de la présence de Dieu, et le couvercle, le propitiatoire, qui était recouvert par le sang. Et en conséquence, comme par hasard, le sang était entre Dieu et la loi qui avait été transgressée. Et Jésus, à la croix, il est entre Dieu, il prend sur nous, sur lui, pardon, il prend sur lui la colère qui nous était destinée parce que nous avions transgressé la loi de Dieu. Propitiatoire, vous le retiendrez simplement, c'est ce couvercle qui était sur l'arche de l'Alliance, le souverain sacrificateur, une fois par an, aspergé pour l'expiation des péchés du peuple. Ce qui ressort fortement, il faut être très clair aussi, ce n'est pas seulement, dans les propos de Paul, ce n'est pas seulement l'universalité du péché, ça c'est clair, l'universalité du péché, tous sont péchés, l'universalité de la grâce, proposée à tous, la justification aussi, proposée à tous, gratuitement par Jésus-Christ, mais il faut être très clair, nous parlons de l'universalité de la grâce, l'universalité du péché, nous ne parlons pas de l'universalité du salut. Il y a universalité de la grâce proposée, mais il y a une non-universalité du salut. Ce n'est pas parce que Jésus est mort que tout le monde est sauvé. Ce n'est pas clair pour tout le monde. Beaucoup de milieux pensent que Jésus a payé le prix puisqu'il a payé la dette. Non, c'est très clair. Par la rédemption, par le rachat, par le moyen de la foi en Jésus, il ne peut pas y avoir d'universalité du salut. Alors comment est-ce qu'on est pardonné, déterminé, en montrant les bienfaits de la justification? Comment est-ce qu'on est pardonné? Comment est-ce qu'on est justifié, sauvé, accepté? Simplement, J'insiste, peut-être certains sont en train de se dire, frère, vous êtes en train de nous évangéliser. Pardon, parfois ça fait du bien, je sais pourquoi je dis les choses, n'oubliez pas que ça va sur Internet, et ici je ne suis pas sûr qu'on soit tous bien ouverts. Comment on est justifié? Comment on est sauvé? Comment est-ce qu'on est pardonné, accepté, approuvé, agréé de Dieu? Comme dit un chant qu'on a déjà chanté, comment être pardonné seulement par le sang de Jésus? Comment être pardonné? Comment être justifié? Lorsque nous reconnaissons notre nature de pécheur, nous reconnaissons humblement qui nous sommes, que nous sommes incapables de nous laver, de nous purifier nous-mêmes. C'est bête ce que je dis? D'accord. Vous savez le nombre de chrétiens qui, ayant lu ces choses, ayant entendu ces enseignements, ne viennent pas simplement devant Dieu dans la repentance et la foi, lorsqu'ils sont pris en défaut, qu'ils savent qu'ils ont péché, mais qu'ils essayent encore de s'améliorer eux-mêmes. On a perdu la réalité de la justification par la foi. Même au bout de 20 ans de vie chrétienne, je sais que mon ancienne maintenant, mon ancienne nature, c'était une nature de péché. J'ai parfaitement conscience que même 20 ans après, même avec 20 ans, 30 ans de bons et loyaux services envers le Seigneur, il n'y a rien à part le sang de Jésus qui efface le péché. Donc même au bout de tant d'années de vie chrétienne, je renonce à me justifier. Je renonce à me défendre. Je renonce à toute forme d'excuse. Je renonce à toute forme de circonstances atténuantes. Je refuse toute forme de moralité. Je cesse de vouloir me rendre meilleur. Ça aussi, hein, c'est inconscient dans les cœurs. Très bien, de frères et sœurs qui sont constamment limités en échec parce qu'ils cherchent désespérément à plaire à Dieu et à essayer, par la force, par leur propre force, mais c'est charnel, par leur bonne volonté, à essayer de se rendre meilleur et de mieux plaire à Dieu. Vous savez ce qui plaît à Dieu? La foi. La foi. Quand nous cessons de vouloir nous rendre meilleurs, quand nous reconnaissons Jésus comme seul sauveur, seul Seigneur, seul médiateur, quand nous demandons pardon simplement, quand, comme David, nous sommes là devant lui, humblement brisés, nous n'avons rien à faire valoir. Je dis, oui Seigneur, je suis cet homme-là. Dis-moi quel est ton nom. Ah Seigneur, tu m'as engendré, pourquoi tu me demandes quel est mon nom? Ça fait des années que je te prie. Bon, il ne se passe pas grand-chose, mais ça fait des années que je te prie, Seigneur. Dis-moi quel est ton nom. Ok Seigneur, c'est moi, c'est Jacob. Voilà qui j'en suis. Et quand nous reconnaissons sincèrement, sans rien faire valoir, il pardonne. Et ça, c'est perturbant, parce qu'il faut vraiment le saisir. Et il y a des chrétiens derrière, ils disent, pardon, hein, purée, c'est quand même drôlement facile. Mais après, derrière, il y a le reste de l'épître romain. On va voir derrière ce qui se passe. Il pardonne. Il efface le péché. Il n'efface pas la mémoire, mais il efface mon péché. Parce qu'il faut que je me souvienne d'où je viens, parce qu'il faut que je sache la dimension de sa grâce, parce qu'il faut aussi que je sois capable d'en témoigner à d'autres. Il efface le péché par la mémoire, il pardonne par le sang de la croix, il me réconcilie avec Dieu le Père, le Saint-Esprit vient, il me fait naître de nouveau, si c'était ma première expérience, et sinon il me régénère, il me renouvelle, il fait à nouveau son œuvre en moi. Jésus, seule victime propitiatoire. Je réinsiste, pardon. Pas seulement pour les inconvertis, aussi pour n'importe quel disciple, à n'importe quel moment de sa marche. Ensuite, dans le chapitre 4, vous relirez, c'est très simple. Paul est en train de démontrer que même Abraham, le père des croyants, a été justifié par la foi et qu'il a reçu la foi avant la circoncision. Et puis, c'est ma conclusion. L'apôtre Paul termine. C'est la première partie de son. D'une exposée qui se termine ici. Vos Bibles sont toujours ouvertes. On lit en conclusion, au chapitre 5, les versets 1 à 11. Romains 5, verset 1er. Voilà, la démonstration est faite. Et Paul s'écrit, proclame, il doit être plein d'enthousiasme derrière sa feuille, c'est-à-dire plutôt son parchemin. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en paix, bien-aimé? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes dans une paix inconditionnelle? Est-ce que vous êtes dans une paix profonde? Est-ce que vous êtes dans une paix permanente? Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, ça aussi on en reparlera, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'expérience, l'espérance, il est en train de dire, mais justifié par les foi, vous n'avez plus aucune limite, vous pouvez tout affronter. Or, l'espérance ne vous trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Encore. Vous donneriez votre vie pour une personne qui en vaut la peine? Vous donnez votre enfant? Oh, pardon, je ne donne pas mon fils. Hein. Vous donnez votre fils même pour quelqu'un qui en vaut la peine? Paul dit peut-être on donnerait. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne donnerai pas mon fils pour une personne qui en vaut la peine. Alors, à bien plus forte raison, je ne le donnerai pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et Dieu donne Jésus. Et Jésus se donne lui-même pour des gens qui sont encore dans le péché. Et Jésus se donne aussi librement et volontairement pour des gens dont il sait, parce qu'il est prescient, qu'il est déjà bouclé, qu'il est déjà écrit. Il sait déjà. Qui l'acceptera, qui l'acceptera pas. Il a donné son fils et Jésus se donne lui-même pour des gens dont il sait pertinemment qu'ils ne l'accepteront jamais. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Ça, c'est une autre thématique. Le nombre de chrétiens que j'ai rencontrés qui s'imaginent qu'ils vont être jugés quand ils passeront au cours. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, verset 10, sauvés de la colère, verset 9, et non seulement cela. Mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et peut-être il faut que j'arrête la lecture, parce que sinon je vais aller trop loin dans le chapitre 5. C'est déjà très bien comme ça. Voilà comment Paul conclut la première partie de son épître. La démonstration est en fait, il conclut avec ceci, justifié par la foi. Quel prix de victoire, quelle grâce, quel sujet de louange. Justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Justifié par son sang, nous sommes sauvés de la colère. Nous sommes, verset 11, réconciliés. Nous avons la paix, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. J'ai mis une petite avance pour vous donner un avant-goût de la semaine prochaine. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ça, c'est au chapitre 8. Voici des glorieuses vérités bien-aimées. Sur laquelle l'Église justifiée doit toujours veiller et ne doit jamais perdre de vue ses vérités salvatrices. Amen. Va se recueillir, on va prier ensemble. Voilà, on a aussi dans tout cela des sujets de reconnaissance, de louange, d'action de grâce.